Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées. Et Jacques, nous évoquions à l'instant la lutte contre le réchauffement climatique dans le journal. Vous revenez-vous sur le débat autour des pesticides et des plastiques?
Voilà, puisque vous le savez, Clara, le projet de loi alimentation et agriculture fait son retour ce mercredi à l'Assemblée nationale. Alors, il concerne évidemment ce que vous disiez, mais aussi glyphosate, réduction du plastique alimentaire, les prix agricoles. Après l'appel de 200 personnalités pour sauver la planète, puis de 700 scientifiques tout récemment, la mobilisation pour le climat dans une centaine de pays, et bien aujourd'hui c'est Charlie Hebdo qui lance l'appel des 100 en faveur des coquelicots et contre les pesticides. Fabrice Nicolino présente cette campagne citoyenne qui vise à rassembler chaque mois, le même jour et à la même heure, sur les places des villes et des villages, les porteurs d'une cocarde symbolique, un coquelicot en tissu de récupération. Dans le numéro spécial qui paraît aujourd'hui, le journaliste écolo revient notamment sur l'histoire funeste de la puissante industrie des pesticides. Bayer, qui vient d'avaler Monsanto, est à l'origine de l'utilisation des gaz pendant la Grande Guerre. Dans l'Allemagne nazie, c'est l'un de ces chimistes qui a inventé le gaz sarin et lancé la production des pesticides organophosphorés. Quant à Monsanto, c'est la firme qui a mis au point l'agent orange pour l'armée américaine au Vietnam, un herbicide dément visant à détruire la forêt tropicale qui abrite les combattants Vietcong. Les Américains déverseront des millions de litres et 3 millions de Vietnamiens jusqu'à la troisième génération souffrent de cancers et de maladies neurologiques. Comme d'autres industries mortifères, le tabac ou l'amiante, la puissante chimie des pesticides pratique le lobbying à outrance, la désinformation et la production de l'ignorance en finançant des recherches bidons pour instiller le doute sur ces méfaits dans l'opinion. Jacques Litauer suggère de mettre en balance les milliards d'euros engrangés par ce secteur industriel, le troisième en France après l'automobile et la métallurgie, avec le coût induit par les maladies provoquées et les atteintes parfois irréversibles à l'environnement. Pour Le Monde, Patricia Joly a embarqué sur la goélette scientifique Tara en mission d'observation du gyre de plastique, la grande poubelle du Pacifique, où le continent de plastique, une soupe de particules répandue par la désagrégation des 8 millions de tonnes de plastique déversées chaque année dans la mer. Dans le plus vaste océan du globe, les polluants imprégnés de substances cancérogènes et mutagènes sont absorbés par la faune marine et remontent dans la chaîne alimentaire. Plastique, peut-on vivre sans? Titre aujourd'hui l'hebdomadaire Le 1. La question est cruciale car elle ne concerne pas que les océans. Dans les couches géologiques, souligne Julien Bisson, on peut déjà identifier l'apparition de plastique glomérat, un alliage fort peu naturel de roches et de composés plastiques qui a tout de la bombe à retardement. Nathalie Gontard évoque notre addiction au plastique. C'est un matériau versatile qui peut se mettre en forme et se profiler très facilement là où le verre, le papier ou le métal sont difficilement modelables et qui présente un excellent rapport poids-résistance, ce qui explique qu'on le retrouve dans l'automobile et l'aéronautique. La directrice de recherche à l'INRA ajoute que plus de la moitié des 300 millions de tonnes de plastique produites chaque année est utilisée par l'agroalimentaire pour l'emballage des aliments et que nous en jetons chaque année l'équivalent de notre poids corporel. Or, ce plastique va persister bien au-delà de notre propre vie, au moins 5 à 6 fois la durée de notre existence, avec des risques importants à long terme. Le plastique est un polymère qui ne se dissout pas comme le métal ou le verre, mais se dégrade en petits morceaux microscopiques puis nanoscopiques. Et là, qu'il soit enfoui sous la terre, placé dans des réservoirs géotextiles ou immergé dans les océans, ils peuvent contaminer l'ensemble de notre environnement et des organismes vivants. Même le recyclage n'est pas une solution à long terme, car on ne peut que retarder sa relégation au rang de déchets, et on devrait plutôt nommer décyclage cette opération. D'où l'urgence de réduire considérablement notre consommation de plastique et même d'apprendre à s'en passer. L'âge du plastique, né dans la modernité d'après-guerre, serait donc en passe d'être révolu. Roland Barthes en avait fait l'analyse sémiotique dans ses mythologies. Plus qu'une substance, écrivait-il, il est l'idée même de sa transformation infinie et comme son nom vulgaire l'indique, l'ubiquité rendue visible. Il incarne le songe de l'homme devant les métamorphoses et proliférations de la matière et son usage ménager en fait la première matière magique qui consente au prosaïsme. Avec lui, la hiérarchie des substances est abolie. Une seule les remplace toutes. Le monde entier peut être plastifié et la vie elle-même, puisque, paraît-il, on commence à fabriquer des aortes en plastique.